SOS Maman. Alors parlez-nous, Wurmling, parlez-nous de SOS Maman. Quelle est cette association? Quand avez-vous débuté? Comment?
Oui, c'est une association qu'on a formée à l'intérieur de l'association UNEC, qui seule existe officiellement, légalement. C'est une association 1901. UNEC. Et là-dedans, il y a différents groupes, clubs, mouvements, même partis maintenant, etc. Alors, parlons donc de SOS Maman. Ça, c'est une activité qu'on a commencée en 1995, il y a 14 ans. Et l'autre jour, on a fait un petit graphique pour voir comment ça a évolué depuis ce temps-là. Effectivement, les premières années, on avait extrêmement peu de cas. En 95, on a sauvé 2 bébés. En 16-17, pareil. 98, 1 bébé. Et puis, c'est la montée terrible. Hein. Depuis 2001, on est aujourd'hui à 110 bébés par an. À la vitesse, 110 bébés par an. C'est-à-dire environ 2 à 3 par semaine. Mais ça veut dire aussi 2 à 3 naissances par semaine. Donc c'est toujours assorti à la joie quand même. Et si je regarde les tout derniers 2 ans, là, par mois, les sauvetages par mois, ça varie entre 5 et 12 par mois. Hein? Et tout récemment, septembre, octobre, novembre, c'est l'explosion. Est-ce que c'est le froid? Non, est-ce que les conditions sociales qui s'empirent, nous, on a...
La crise économique, sans doute.
Oui. Crise économique. On a pratiquement autant de bébés qu'on veut, si on avait assez d'argent. Hein. Donc, on pourrait pratiquement multiplier, mais il y a aussi un problème de personnel. Nous sommes maintenant une quinzaine qui s'occupent vraiment de SOS Maman, dont 3 sur Paris, et puis les autres dans d'autres villes, je ne veux pas trop
oui,
dire.
Oui, c'est ça, qui sont lesquelles... plus des familles d'accueil.
Oui, c'est en plutôt...
Alors, comment procédez-vous?
Oui, mais eux, ils commencent aussi à récolter. Hein. Ouais. Alors, au Benelux, par exemple, ils sont devenus très, très actifs. Ça, c'est un couple chirurgien, noir d'ailleurs. Donc, elle est gynécologue et lui, il est chirurgien. Alors, les cas vraiment graves, des filles blessées ou des esclaves, des cas comme ça, j'en ai parlé déjà ici à la radio, on les envoie systématiquement chez eux parce qu'ils ont tous les moyens de priver, même avec une clinique où ils travaillent, de les suivre incognito. Et ça se passe vraiment bien, on n'entend rien, ça se résout. Sauf quand il y a un cas de mort, ce qui nous arrivait déjà. Une jeune fille qu'on a sortie enceinte d'une ambassade à Paris, hein, elle est morte 2 semaines après qu'on l'a sauvée de l'ambassade. Elle était en tel état de sous-nutrition, enchaînée aux jambes, on a soigné les plaies de la jambe, on a vu le dos.
En quelle année?
Strié. Ah, c'était cette année, tout ça.
Cette année.
Tout ce que j'ai dit là. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est de 14 ans. Là, c'est par exemple une des
France
premières
des droits de l'homme.
Qu'on a
oui.
sauvée.
Au pays des
droits
de l'homme.
Maintenant 14 ans, c'est cette fille-là. Là. Elle est maintenant, voilà. Et ça, c'est les tout nouveaux.
C'est dommage que nous ne puissions pas montrer ça à nos auditeurs.
Oui, c'est de très belles photos de bébés.
Oui, alors c'est ça la joie de ce travail qui est peut-être très, très dur parfois. Au point d'en perdre la foi, parfois. Hein. Y a des situations extrêmement dures où nous, on craque. Si on n'était pas plusieurs pour nous épauler mutuellement, ne serait-ce qu'au téléphone, on abandonnerait. Trop dur. On dirait presque au bon Dieu, mais écoute, on s'occupe de vos affaires, faut peut-être pas nous mettre en plus des bâtons dans les jambes, à ce point-là.
Et alors, que répond le bon Dieu?
Oui, enfin, non, non. Le bon Dieu, il nous montre après où est le problème. Hein.
C'est et comment
incroyable
le résoudre?
Incroyable, chaque fois. Incroyable. Et on n'a vraiment pas assez de foi pour ce travail. Tout au début, quand on a commencé, je suis allé voir Mme Poulot.
Oui.
Et j'ai dit, bon, nous, on prévoit ce travail. On veut quand même aussi travailler un peu avec l'argent. Parce que l'argent, c'est la meilleure preuve du cœur. Hein. Ça va avec le porte-monnaie. Alors, mais comment avoir l'argent? Parce qu'un gosse, ça coûte peut-être l'argent, il faut aider la maman, etc. C'était tout au début. Alors, Madame Poulot, elle m'a regardé, elle a dit, « Ah, l'UNEC veut se rendre sur les chemins de la vie. C'est bien, c'est pas l'argent qui vous manquera, c'est la foi. » Elle m'a dit ça. Ouais. Et aujourd'hui encore, je suis en train de
vous y repenser.
Parce qu'elle a parfaitement raison. Le plus qu'on aurait de la foi, le moins on gênerait le bon Dieu de sauver les enfants. Lui, il voudrait sauver tous. Qui les gêne ? Les chrétiens. Parce qu'on n'est pas entre ses mains. On n'a surtout pas de confiance. Combien de fois on nous dit... Mais écoutez, vous vous rendez compte, le malheur aujourd'hui, un gosse et vous, vous les aidez en plus les étrangers, ici en France. Ah oui, on a droit hein, d'entendre tout ça. Qu'on fasse ça pour les Français, je veux bien, ou peut-être pour les traditionalistes. Il n'y en a pas d'avortement, bon, enfin, pour les, non, ça serait bien, mais on ne va quand même pas. Bon, ça nous a amené quand même... à réfléchir certaines choses. Parce que l'argument le plus grave qui nous a été fait est celui-ci. Bon, vous faites peut-être des bonnes œuvres, vous aidez les gens, avec d'autres qui donnent de l'argent, donc c'est toute une équipe, si l'on veut, et vous penchez effectivement sur les pauvres, mais c'est purement naturel. Il n'y a pas de bon Dieu là-dedans. Vous en parlez même pas, vous les baptisez même pas. Alors là, ça nous a amené à réfléchir, est-ce qu'il y a deux amours ? L'amour naturel, l'amour surnaturel. Mais que je sache, le bon Dieu, il est un, il est amour. Donc, où il y a un acte véridique d'amour, il y a Dieu. C'est presque Saint Jean, hein ? Ubi Deus, ibi Caritas. On peut renverser la chose. Là où il y a l'amour, il y a Dieu. Dans un sens, non ? Et, comme dernière preuve, on a trouvé... Dans Matthieu 25, quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. Quand j'étais aveugle, etc. Quand j'étais en pleurs, vous m'avez consolé. Alors, les justes, auxquels il le dit, au dernier jugement, ils disent, mais quand, Seigneur, tu étais nu, et nous, on t'aurait vêtu, etc. Alors, c'est tout oriental, toujours répété toute la série, et Jésus, pareil, répète toute la série. Chaque fois, quand j'étais quand un enfant, un de mes tout petits frères et sœurs était nu. C'est moi qui m'avais vêtu. Alors, c'est là la preuve que chaque acte d'amour, même si c'est inconscient, même si on ne sait même pas si le bon Dieu existe, cet acte-là, il est libérateur, il est vraiment racheteur de péchés. Alors, on avait par exemple, je ne le raconte pas souvent ce cas-là, une fois on avait une prostituée, il fallait la faire disparaître tout de suite de Paris, parce que là c'est la loi dure, hein, c'est la Kalachnikov et le couteau, il n'y a pas d'autre loi, et c'est sur le trottoir que ça se passe, il ne faut pas traîner. Une fille qu'on sauve de la prostitution, il faut la évacuer tout de suite de Paris. Alors, on ne savait pas où. Là, actuellement, nous logeons 38 mamans, hein, à toutes nos logeuses, et parfois c'est complet, même beaucoup en 2-3 de nos femmes, hein, elles se sacrifient vraiment. Eh bien, on a dit, on traverse la rue, il y a un taxi, on va lui demander s'il n'a pas une idée. Et je dis en une seule phrase, mais j'avais pas le temps de l'expliquer, je dis, il y a là une prostituée, il faut l'évacuer tout de suite, vous n'avez pas une idée. Rendez compte, j'ai dit que ça. Et lui, il dit, oh, ça se trouve bien, une demi-heure, j'arrête mon travail, et je voulais juste voir ma belle-mère en Lorraine, je peux l'amener. Eh ben, elle est restée des mois, elle a accouché un beau bébé. Ben, ce type-là, imaginez, il arrive au ciel. Mais peut-être il a fait plein de conneries après, j'en sais rien.
Ou avant.
Mais cet acte qu'il a posé là, qu'il a dépassé, où il s'est vraiment... donné comme le bon samaritain, quoi, hein, qui n'a pas réfléchi, je n'ai pas terminé mon rosaire, bon, hein, parce que le bon samaritain, c'est exactement la même doctrine. Dieu, Jésus, il dit, il y avait un homme qui est tombé entre les larrons et est resté comme mort à côté du chemin. Arrive un prêtre, faut quand même le dire, hein, il a poussé là, hein. Il fait un tour, il continue. Arrive un diacre, il fait un tour, il continue le chemin. Et arrive le schismatique, l'hérétique, le samaritain. Et Jésus demande à la fin, et qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs ? Il est descendu de son âne, il est allé vers le pauvre, il a versé du vin et... De l'huile, voilà. De l'huile. Oh, ce qu'il avait, hein, son parfum. Et il l'a mis sur son âne, il l'a amené à l'aubergiste. Alors, écoutez le détail. Il a donné de l'argent à l'aubergiste pour qu'il le soigne bien en disant « Quand je reviens la semaine prochaine de Jéricho, je te donnerai le surplus que tu aurais dépensé. » Rendez compte, la comptabilité. Tout ça fait partie de la parabole. Mais c'est exactement ce qu'on fait. Hein? Donc ça, c'est une partie de l'évangile qui nous occupe beaucoup, mais aussi Jonas. Hein? Jonas qui voulait plus, qui s'est caché, il a dit « J'en ai marre, je veux plus raconter ta parole, Seigneur. » Ils sont énervés, ils veulent pas l'écouter. Et il s'est ensablé presque. Il est allé au désert sous un buisson, il voulait plus rien en savoir. Et Dieu s'est approché, Jonas, tu vas annoncer ma parole. Et là, il s'est jeté dans la mer. Enfin, il l'a plutôt... il a essayé de réannoncer la parole de Dieu. Ils l'ont foutu à la mer, hein, il est tombé dans le poisson, etc., etc. Et il s'est levé, il est allé à Ninive. Il s'est mis devant la ville et il a crié... Ninive, Ninive, si tu ne te convertis pas, tu périras. Un homme contre toute une ville. Alors qu'on ne dise pas, on n'est pas assez nombreux, etc. Un homme. Et qu'est-ce que Ninive a fait? S'est converti. Hein? Ça, c'est aussi un peu SOS Maman pour nous. On ne regarde pas le nombre, ni de celles qu'on sauve, ni de nous-mêmes. Et souvent, je dis même à nos comparateurs, je dis, c'est ce travail-là qui nous sauve. Nous serons sauvés uniquement dans la mesure où nous devenons comme les petits. Pratiquement devenant des bébés, des enfants, dit Jésus. Hein, où nous si vous ne devenez pas comme ces enfants, vous ne rentrerez pas au royaume de Dieu. Et il se trouve que beaucoup de nos mamans sont des pauvres. Pas toutes, mais beaucoup. Au point qu'aujourd'hui, nous nous demandons comment sauver les mamans riches qui veulent avorter. Alors là, nous savons vraiment pas comment faire. Il est vrai qu'on en a certaines, et c'est par des relations qui savent leur parler, etc. Il n'y a pas de méthode pour les riches. Les riches, ils ont besoin de rien. Et je crois que c'est le problème du bon Dieu lui-même qui dit les riches, ils rentreront pas. Il n'arrive pas à les approcher. Ils ont besoin. Ils ont besoin de rien du tout. Par contre, une maman, une fille de 16 ans qui pleure sur un banc public. Elle a besoin de quelque chose. Elle s'ouvre, elle regarde vers...
Elle accepte l'aide.
Elle accepte l'aide. Voilà, c'est le secret de la pauvreté. De reconnaître sa dépendance. Et par ce biais, jusqu'à la dépendance de Dieu, peut-être.
Enfin, vous faites cette œuvre-là aussi pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire que vous avez tous oui. une foi, justement, vous essayez d'être de plus en plus transparent à l'amour de Dieu pour la transmettre. Et vous la transmettez même souvent sans la dire, mais elle est transmise par vos actes.
Oui, mais sur les 15, il y en a deux qui pratiquent. Ah. Alors, c'est-à-dire, c'est des catholiques, tous baptisés, mais il y en a 13 qui ne pratiquent pas.
Et pourquoi?
Ça, c'est une leçon pour les deux qui pratiquent.
Hein. Et pourquoi?
Alors là, c'est une bonne question.
C'est ça. Et là, d'avancement possible de.
On arrive quand même petit à petit. C'est un signe.
Vous en parlez entre vous de ce problème?
Oui. Moi, pour moi, c'est choquant au début. Et maintenant, je comprends de plus en plus que le monde, au moins en France, les Français, sont pas si mauvais que ça. Il y a encore beaucoup d'amour dans le peuple. Il y a des gens cachés qui s'occupent de leur grande-mère et ils n'en parlent jamais. Tous les jours.
Je peux vous dire ça.
C'est la loi naturelle, ça.
Et moi, je peux vous dire ça. Je le connais de près parce que je me suis occupé depuis très longtemps de personnes âgées. Et tout le monde nous disait toujours, oui, les Français, en particulier, puisque c'est de ça qu'on parle, les Français se désintéressent de leurs ascendants, ils les abandonnent dans des maisons de retraite, ils s'en occupent pas, parce qu'on entend souvent ce discours-là. Et moi, qui ai été sur le terrain depuis 15 ans, je peux vous dire que c'est faux. Parce que très souvent, les gens, les familles sont éparpillées. Il y a certaines maladies qu'on ne peut pas assumer à domicile, et je les vois venir, et je vois des neveux, des petits-neveux s'occuper d'une vieille tante qui n'a pas de maladie. Et je vous assure, il y a, c'est vrai, il y a un dévouement que évidemment dans, les médias ne reconnaissent pas, mais moi je le vois. Et il faut pas.
Il
moi,
faut
je,
quand
je,
même
je...
des moyens importants en matière de logement, parce qu'il faut une chambre de plus.
Il y a aussi ça.
Et quand on voit des familles qui vivent, je dirais, avec 6-8 enfants, avec 3 chambres. Et ben s'ils prennent une chambre en plus pour la grand-mère ou la grand-tante, mais non, mais c'est difficile quoi.
Oui,
c'est surtout
sont,
le problème du logement, je
pas,
pense.
Ce sont pas ceux-là qui sont les.
Non, non, c'est pas ceux-là qui sont
moi,
le plus
suis,
absent.
Moi, si vous voulez, j'ai quand même Catherine un point de vue très différent de vous. J'ai vu beaucoup de gens. J'ai vu beaucoup de gens se débarrasser de leur vieillard parce qu'ils ne voulaient pas assumer. Ils ne voulaient pas assumer tous les jours. Ils veulent bien de temps en temps aller une fois ou deux fois par semaine voir maman. Mais l'avoir sur
c'est
le
pas
dos,
pareil, c'est pas
l'avoir
pareil.
Sur le dos tous les jours, alors que Georges ne la supporte pas, tu comprends mon vieux, je peux pas la garder.
Enfin, bon, ça c'est un autre problème,
ben,
mais
tellement fréquent.
Mais je trouve quand même qu'il y a, il y a quand même un grand dévouement. Ce que disait Monsieur Wermeling, c'est vrai quand même.
Et ce que vous nous dites, Wimfried Wermeling, est quand même, c'est la loi naturelle qui est inscrite par le Créateur.
Au cœur de toute
l'humanité. Et c'est pour ça que nous devons tenir bon. Et que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de composer avec l'ennemi, comme le font en particulier, je pense, à propos de la bioéthique, je pense à la position des évêques français, qui n'osent pas, parce qu'ils veulent être reconnus par les journalistes et les politiques, qui n'osent pas parler en homme d'église. Et c'est moi, ça me scandalise profondément. Parce que les évêques viennent de publier un livre, 2 livres sur la bioéthique actuellement. Bon, il n'y a rien à dire. Techniquement, c'est parfait. Propos pour un dialogue, etc. Il y en a un pour les députés, un autre pour, je sais pas quoi, qui est de l'anthropologie, soit dit. Écoutez, franchement, il n'y a pas une sottise dans ces livres, mais il n'y a rien de chrétien. Il n'y a rien de chrétien. Et c'est pour ça que je suis très, très touché de ce que vous venez nous dire. Parce que finalement, Wilfried, vous devriez être archevêque de Paris.
Bon, non, mais...
Ah ben non, parce qu'il ferait plus, il pourrait plus faire ça.
Il serait foutu.
Moi, je pense que s'il devenait cardinal archevêque de Paris, je pense qu'il changerait complètement. En quelques mois, ça ne serait plus le même homme.
Nous avons encore 20 minutes. Parlez-nous un peu de vos quelques cas particuliers pour nos auditeurs.
Parce que, oui, justement. Alors, donc, tu dis, il y en a qui ont envoyé leur maman à la maison, à la maison de retraite, etc. Il y en a peut-être beaucoup comme ça. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il y en a énormément de gens qui ont encore de l'amour. Chrétien, hein, sans trop le savoir que c'est chrétien. C'est une nation baptisée depuis Clovis.
Nos racines,
et c'est pas avec quelques deux siècles de révolution que vous chassez ça profondément.
C'est-à-dire que la foi devait être bien ancrée pour que 200 ans après, il en reste autant. Quand
voilà,
même.
Exactement. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai une dame, je ne dis pas exactement où, enfin, disons en Bretagne, c'est pas loin
brouillez
de la Bretagne.
Brouillez les pistes, brouillez les pistes.
Alors, oui, parce que, bon.
Bien sûr.
Elle est très malade, elle a le cancer. Elle a environ 50 ans et elle fait le ménage chez des gens pour se nourrir. Elle a pris on dit les filles, parce que souvent on a 60% de mineurs au-dessous de 18 ans, enceintes. Bon, nous on dit les filles, mais enfin c'est aussi les femmes, des jeunes femmes. Elle en a pris une, après elle en a pris deux en même temps, après elle en a pris trois, après elle en a pris quatre. Elle a été transportée à l'hôpital à Paris. Il fallait, dans la journée, trouver 4 autres logements pour les... On l'a fait, on les a mis jusqu'à Nice, etc. C'était la folie, là, cette semaine-là. Et maintenant, elle est rentrée, elle dit, oui, j'ai le cancer, mais j'ai encore 3-4 ans à vivre. Elle est déjà de nouveau à 4. Alors, écoutez, une femme qui fait le ménage ailleurs, toute simple.
Et elle ne pratique pas.
Elle ne pratique pas. C'est ça ce que je veux dire. Il y a beaucoup, beaucoup de grâce encore dans ce pays. Pourquoi je suis en France? Parce que moi, je le sens. Ce pays-là, il est catholique. N'importe les pourritures en haut, en bas, il y a encore des fidèles.
Et il n'y a pas de possibilité pour ces gens-là de faire rencontrer un bon prêtre ou des gens qui lui parleraient de... pour aller un petit peu plus loin.
Il faut les confier, je crois, à la miséricorde du bon Dieu.
Voilà. Non, mais parce que...
Parce que nos incantations. Hein,
parce que je comprends
pas, Wilfried.
Le Jésus, là-dedans, c'est peut-être les pauvres qu'ils accueillent.
Oui, mais il faut quelqu'un qui leur dise.
Oui,
c'est ce que je me disais,
sûr.
C'est qu'il y a peut-être aussi une œuvre parallèle à faire pour les faire avancer dans cette reconnaissance
mais
de la foi qu'ils pratiquent.
Un ou deux cas précis quand même.
Ouais. Que... Bon, alors,
pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Hier, hein, on a en total déjà évacué 45 prostituées de l'Est vers l'Est, chaque fois. On les réexpédie. La meilleure manière pour elles.
Soit dans leur famille, soit à côté, soit dans une famille
toujours
proche.
Dans la famille directe. Alors,
oui,
pas les
ça,
parents,
oui.
Parce qu'ils sont souvent dans le coup.
Et
vous savez, c'est des annonces dans les journaux. Moi,
ils les ont vendues souvent.
Voilà, agence de jeunes filles, mannequins, école de mannequins.
Ah, oui,
et ils font les premiers 6 mois à Moscou, à Pétersbourg. Alors, les parents peuvent voir comme c'est sérieux.
Dans une école.
Ils apprennent le pas, le truc, les vêtements. Voilà, stage à Paris, un an de stage à Paris. Oh, quel man. Alors, il faut payer pour le transport. Les parents souvent payent en plus. Hein. Donc, c'est là qu'elles sont mêlées. Donc, on ne peut pas travailler directement avec les uns. Alors, ce qu'on fait avec elles, quand on les trouve, enfin, il y a des manières de trouver, je ne veux pas trop expliquer.
Oui,
et quand on les a trouvées, il faut, dans la journée, tout ça, hein, on téléphone à la famille en Russie. C'est-à-dire aux tantes et surtout les grandes-mères, les babouchkas.
Ouais.
Alors là, oh, tu es enceinte, ma petite Natacha, mais tu viens chez moi. Et c'est parti. Et nous, on paye 750 euros. Crac, le camionneur, la carte téléphonique, un peu de vêtements. Et crac, elle est partie dans la journée. Elle ne rentre même pas. Alors, heureusement. Parce que rentrer, ça veut dire rentrer chez les souteneurs qui veulent leur fric chaque soir. Hein.
Et quand les rosser ou les tuer. Ou...
Bon, c'est arrivé, oui. Hein. Bon, alors ça, c'est un secteur. L'autre secteur, c'est les esclaves. Je ne veux pas trop en parler. L'autre secteur, c'est les mères terribles. Alors, en vérité, c'est les grandes mères terribles, c'est-à-dire les grandes mères des bébés qui doivent naître. Alors, elles qui vendent donc leur embryon au laboratoire. Ça, c'est quelque chose d'absolument abject qu'on a rencontré une quinzaine de fois déjà. Et on rachète littéralement le bébé. Parfois, 5000 euros. Et quand c'est des jumeaux, c'est 10 000 euros. Et quand on a la chance, on peut négocier à 5 000 pour les deux. Ce qu'on a fait. Et on a payé, et on est parti avec la fille. Et dans la porte, elle nous a crié derrière, « Maintenant, vous pouvez faire les films porno que vous voulez faire avec ma fille, n'est-ce pas ?» Ça, c'était la dernière parole de cette grand-mère. Enfin, 40 ans, hein. Calculer 40 ans, ça fait 1968, tout par hasard.
Ouais, des Françaises,
69.
Là.
Ah oui, absolument
Françaises.
Oui. Mais ça montre quand même un sale boulot de ces laboratoires qui cherchent par tous les moyens d'avoir des embryons, embryons mâles et femelles. Les femelles sont beaucoup plus chères. Alors écoutez bien, à cause de l'utérus dans l'embryon.
Ah.
Qui est considéré, je ne sais pas par quelle utopie, comme la chose la plus multipotentielle sur Terre. Alors c'est là qu'il faut fouiner, faire des brevets, le brevet de l'avenir, le clonage de l'humanité. Mais c'est des fous, ces chercheurs. Ils n'ont jamais rien trouvé dans ce domaine. Mais on se bat pour avoir un embryon sous la table. Et c'est pourquoi ils disparaissent dans les cliniques. Pourquoi ils disent aux mamans, vous voulez voir l'avortement? Oh non, 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 mais non, non, on va disposer, vous en faites pas, madame. Merci, madame.
Ouais.
Quand on a entendu l'autre jour le scandale à Paris avec 200 embryons gelés, personne n'a posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font exactement avec ces embryons? Bien sûr, parce qu'on n'a vu que 200, il y a peut-être 2000 qui sont passés par là. Bon, ben je le dis parce que je connais ces choses-là de
oui,
près.
Oui,
hein.
Mais c'est...
Oui.
Et
alors,
ce sont des choses
la perversité
que vous n'entendrez qu'à Radio Courtoisie, chers auditeurs, et c'est pour ça qu'il faut que vous, si vous voulez entendre la réalité, Radio Courtoisie, c'est la radio de la réalité. Toute crue.
Du pays réel.
Du pays réel.
Réalité.
Hein, et donc, il faut soutenir cette radio et...
Augmenter votre cotisation avant le 31 décembre.
Voilà.
On a encore un cas, nous.
Nous avons encore, oui, encore un cas.
Alors, ça, c'est une Française. Là, je croyais, j'avais la photo. Bon. Une Française de 40 ans. Elle a parlé sur Radio Courtoisie déjà. Elle a un enfant de 2 ans maintenant. Et ça fait 30 mois, vous la connaissez aussi. Ça fait 30 mois qu'elle traîne un peu.
Qu'elle est dans la rue.
De Paris. C'est vrai, elle agace un peu parce qu'elle parle beaucoup. Hein, mais quand même, c'est une Française qui cherche et qui trouve pas de HLM, qui peut payer, qui a même
un boulot à la bibliothèque libraire, elle est bibliothécaire à la ville de Paris, et elle ne trouve pas de HLM. Et surtout, on lui dit...
Oui, elle est venue à notre congrès, et nous l'aidons depuis 18 mois, oui.
Pardon ?
Elle est venue à notre congrès, et nous l'aidons depuis 18 mois, oui.
Oui.
Elle parle remarquablement bien, d'ailleurs. Hein,
oui, ça agace un tout petit peu, mais quand même, le cas est concret. Et elle dit carrément... tout le monde, a priorité, sauf les Françaises. Elle en est convaincue. Hein. Elle dit, vous avez pas de chance, vous n'êtes pas française. Vous êtes française.
Donc vous n'êtes pas prioritaire.
Non. Et elle a acheté, enfin, elle a loué un petit conteneur de la Poste. J'ai vu le truc et la photo. Là. Et elle s'est couchée là-dedans des nuits et des nuits.
Pierre Wouters, vous voulez parler de ce cas. Vous le connaissez bien, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, nous la connaissons bien. Eh bien, bon, elle a des soucis en ce moment parce qu'elle est en accident de travail, elle n'est plus indemnisée, donc elle a vraiment de gros soucis. Mais enfin, bon, voilà, je pense qu'on a bon espoir quand même. Bon, elle est logée actuellement chez des amis et voilà. Mais elle, vous voyez, elle nous a écrit justement un petit article dans notre journal. Je fais quelques lignes, je peux vous le dire. Hein, bon, elle avait repéré la construction d'un bel immeuble social dans le quartier du Père-Lachaise. Elle avait repéré les noms. Alors, il y avait déjà des immeubles, des appartements occupés, mais il y en avait qui étaient vides. Alors, les noms qui étaient des appartements occupés, il y avait Ben Bayoub, Fassassi, Pérez, Diabaté, Abbé, Bakara, Wakei, Brahim, Souibès, Fatnaoui, Traoré, Touré, apparemment, ils avaient deux appartements, Fassaoud. Mais il en restait une bonne dizaine vacants. Alors, elle espérait quand même encore un petit peu, hein. Et puis, celui qu'elle lorgnait, malheureusement, il a été attribué à la famille Sissoko, qui avait déjà un bel appartement. Et puis les autres bénéficiaires, c'est les familles Diallo, Amiri, Sako, Adouji, Choufi, Yassine, Mzougan, Bialetowski, Ganshira. Voilà. Et nous terminons l'article par Opaque, comme titrait il y a quelque temps le quotidien du soir de référence. Et nous mettons dans le journal une photo. Opaque. O-P-A-Q-U-E, l'adjectif, mais bien logé, l'opaque. Parce que vous avez vu, ils ont un genre de château pratiquement pour leurs locaux. Hein, voilà.
Mais là, vous allez tomber sous le coup de la loi. Loi anti-raciste.
Pour l'instant, je cite une réalité. Je cite une réalité. On peut vous donner l'adresse. On pourrait donner l'adresse pour aller vérifier. Si
de toute façon, dans tous les quartiers, ça a été comme ça.
On ne donne pas l'adresse, mais on peut aller.
Alors, pour en terminer, là, pour Noël, on l'a quand même logée maintenant. On est à l'hôtel pendant un mois et maintenant, elle est chez une dame qu'elle connaît. Ils font un peu colocation et nous, on paye pour l'instant cette partie-là parce qu'elle veut se dévouer aussi à l'éducation de son enfant au moins jusqu'à 3 ans. Ça, c'est absolument louable. Oui. Même si elle pourrait reprendre le travail, mais elle a aussi un problème de crèche. Bon. Donc, on veut l'aider, si possible, jusqu'à ce moment-là, puisque si elle reprend son travail, elle peut payer la crèche, etc. Là.
Alors, pour vous aider, Wilfried Verbeling, quelle adresse ?
L'adresse, alors chez nous, c'est très facile, c'est boîte postale 70 114. Et c'est dans le Val d'Oise, 95-210 Saint-Gratien, Val d'Oise.
C'est SOS 000. Maman.
Oui, ou UNEC, comme vous voulez. SOS Maman.
Alors, je répète, boîte postale 70 114, 95-210 Saint-Gratien, si vous voulez aider SOS Maman. Et Wilfried Verbeling, qui fait ce travail tout à fait admirable pour
de charité pure
l'enfant à naître.